Après mon précédent livre, qui parlait de l'amour, j'ai rencontré l'ami qui m'avait commandé ce livre sur l'amour. Puisque tu as accompli ce que je t'ai dit et que cela n'a pas été fait sans enthousiasme, et que d'autre part je ne pensais pas que tu le ferais et que tu le ferais à ce point, je m'en vais te demander un supplément, espérant, c'est une folie, que tu l'accompliras de manière égale, c'est-à-dire jusqu'au point auquel je n'imaginais pas que tu pousserais, avec cet élan et cette fidélité à ce qui te tire et te garde de regarder trop en avant ou trop en arrière, mais bien concentré, et parce que tu n'as pas su coupler la réforme de l'amour et celle du monde, peut-être sauras-tu entendre ma nouvelle commande. Bonjour Nathalie Quintane.
Bonjour.
Nous parlons de descente de médium. J'ai lu le premier paragraphe. Votre livre commence par une commande.
Tout à fait, oui. C'est à la fois une commande d'une amie qui était déjà évoquée dans Cranshaw, le précédent livre. Et ce que dit le passage, enfin le tout début que vous venez de lire, c'est qu'en fait, il y a eu un échec que relate Cranshaw. Un effort pour changer l'amour, mais changer aussi la vie au sens politique du terme. Et que comme Cranshaw s'est terminé, s'est achevé sur cet échec, cette amie me demande de reprendre le travail d'une certaine manière. Ce que j'essaye de faire dans Descente de médium.
Et donc vous recevez une injonction, ou plutôt un défi pour écrire un nouveau livre.
Voilà.
Et on comprend dans ces cas-là que cette narratrice, il s'agit de vous là.
Oui. C'est toujours une version un peu à la fois serrée et très relâchée du jeu autobiographique. C'est un peu moi et c'est beaucoup d'autres jeux, quoi. Mais oui, il y a quelque chose de moi là-dedans, oui.
C'est la même narratrice que Cranshaw.
Et c'est la même que Thomas. C'est-à-dire que ce sont trois livres qui se suivent et qui ont à peu de choses près le même dispositif.
Une figure va traverser l'essentiel du livre, c'est Ted Serios, photographe spirit. Délibérément, je n'ai pas cherché sur Internet, je n'ai pas cherché de fiche Wikipédia, donc je me suis laissé envahir par votre texte et je n'ai pas cherché à voir quels éléments étaient véridiques, quels éléments ne l'étaient point. Est-ce que Ted Serios a véritablement existé et comment vous l'avez rencontré?
Alors il a réellement existé, il a même donné lieu à des films, des livres, des biographies. C'est un personnage que j'ai rencontré par le biais de son, entre guillemets, son œuvre, Spirit, dans une exposition qui s'appelait Le Troisième Œil, autant que je m'en souvienne, qui était une exposition sur les photographies Spirit de la fin du 19e, donc les très près de la mention de la photographie jusqu'à nos jours, mais surtout le tournant 19-20e siècle. Cette exposition, elle a eu lieu il y a 7 ou 8 ans, peut-être plus, à la Maison européenne de la photographie. Et j'étais tombée à la fin du parcours de l'exposition sur les clichés, les polaroïdes de Ted Serios qui prétendait avoir fait ses photographies par sa pensée, enfin à l'aide d'un instrument un peu bizarre, un peu bancal, qui s'appelait le Guzmo, qui était une sorte de tube trafiqué, bien entendu. Et avec ce tube-là, ça donnait des polaroïdes un peu flous, mais qui, disait-il, étaient le produit direct de sa pensée.
Vous écrivez que la photographie spirit est à peu près contemporaine de l'invention de la photographie?
Oui, tout à fait. Les années 60, 70, ça a commencé. Et surtout, c'est tombé dans un moment où la préoccupation spirit ou du spiritisme naissait et se développait dans pas mal de pays dans le monde, en Europe bien entendu, en Russie, en Angleterre, en France, mais aussi aux États-Unis et aussi dans certains pays d'Amérique du Sud. C'était une préoccupation qui ne pouvait que trouver son profit dans la photographie, puisque la photographie tue les vivants et enregistre finalement des morts, hein, d'une certaine manière. Donc les deux se sont développés et ont pris leur essor ensemble, d'une certaine manière.
Donc vous avez visité cette exposition, c'est ce que vous relatez au premier chapitre de votre livre, et là vous avez décidé de continuer sur cette veine de la photographie spirit avec Ted Serios. Et vous faites un jeu, forcément, entre la photographie qui photographierait nos pensées et puis l'usage que vous faites, vous, de la fiction.
Oui, c'est un jeu de mise en question de ces faits, ces documents, ces personnages qui étaient des personnes réelles et de ce que la fiction peut ou pas leur faire dire pour aujourd'hui, puisque le livre, même s'il fait allusion à ce spiritisme d'Alan Kardec qui est né au 19e siècle et qui avait des prétentions scientifiques, même si le livre fait référence à des auteurs encore plus anciens comme Christine de Pizan qui... un peu toute proportion gardée comme Brigitte Lahaie dans Crancho sont là pour venir aider la narratrice dans sa tâche, quoi. Bon, j'ai perdu le début de ma phrase, mais enfin bref, il y a une remise en question par la fiction de ces références et inversement, quoi.
Parce que vous êtes tenté à un moment donné d'écrire, enfin en tout cas vous posez la question dans votre texte d'écrire la biographie de Ted Serios, mais finalement, ce n'est absolument pas une biographie de Ted Serios que nous lisons.
C'est pas une biographie dans le sens linéaire et narratif du terme, une biographie comme on en a un peu l'habitude, mais il y a quand même en fait des bribes de la vie de ce personnage. Et on perçoit par bribes au gré des bifurcations, ce qu'il a pu être sans forcément identifier à chaque fois si c'est du vrai pour de vrai ou si c'est du vrai et du faux à l'usage de la narratrice pour la narratrice qui veut essayer de s'en sortir, quoi, et de répondre à la commande de son ami.
Et votre texte n'est donc pas une biographie, même s'il y a des bribes de la vie de Ted Serios. Et ça ne raconte pas non plus, à proprement parler, une histoire linéaire. Et alors ma question, ce serait comment vous arrivez à écrire un livre qui soit une fiction, mais sans raconter d'histoire.
Alors, je ne suis pas sûre que le livre, ou même Crancho, ou même Tomate, ne raconte pas d'histoire. Il raconte pas une histoire, ça c'est sûr. Il raconte pas une histoire au singulier. Il raconte beaucoup d'histoires qui s'entrelacent, qui bifurquent, où l'on revient, qu'on quitte à certains moments. Mais il y a bien quelque chose de l'ordre quand même de la narration, même de la narrativité dans ce livre-là, comme dans les deux précédents. Après, il y a quelque chose, si vous voulez, qui surdétermine, ou en tout cas une direction qui fait que c'est, y a pas une seule histoire linéaire à suivre, c'est que l'objectif n'est pas, ou l'enjeu de ces livres n'est pas de raconter une histoire, mais pour Descendre de Médium par exemple, c'est de suggérer qu'il y a une tâche ou un devoir ou quelque chose à faire qui est d'affirmer de retrouver un sens politique à la littérature, d'une certaine manière, et donc à nos vies aussi. C'est comme ça que le livre s'ouvre. Le livre s'ouvre, si on continue après les deux ou trois pages qui viennent juste après le passage que vous avez lu, sur la narratrice en quête de 1000 lecteurs qui vont pouvoir, eux, un jour, futur, on ne sait pas quand, comprendre que le message de cette réforme du monde que portent aussi certains médiums, comprendre ce message et le comprendre suffisamment pour agir, c'est-à-dire descendre dans la rue et manifester leur mécontentement, et même plus que ça. Donc en fait, l'enjeu n'est pas de raconter une histoire, mais de se servir de bribes de narration pour convaincre les lecteurs potentiels ou actuels ou futurs qu'il va falloir faire quelque chose. D'une certaine manière, c'est ça.
Et l'auteur, vous avez raison, c'est l'objectif qu'il poursuit, doit influencer ses 1000 lecteurs.
Voilà, alors non seulement il doit les influencer, mais enfin surtout il doit essayer de les constituer, ce qui n'est déjà pas une mince affaire. Il doit, par ce livre-là, essayer de constituer ce lectorat qui va être un lectorat actif ou un peu plus actif que ne l'ont été les précédents lectorats.
Alors, ça, c'est une curieuse entreprise fictionnelle de faire un livre qui est du ressort de la fiction et qui cherche à avoir de l'influence presque physique de mettre en action ses lecteurs.
Oui, mais d'une certaine manière, c'est essayer de faire à ses lecteurs ce que l'écriture et la littérature ont fait, ont produit chez la narratrice et indirectement chez l'auteur, c'est-à-dire chez moi. C'est essayer de produire les mêmes effets ou de produire des effets semblables et surtout de produire un effet tout court, quelque chose qui ne soit pas justement seulement de l'ordre d'un repos fictionnel ou d'un repos sur la fiction. Quelque chose qui permettrait d'aller au-dehors.
Et donc, oui, de produire de l'effet, c'est-à-dire quelque chose qui puisse être après pratiquement mis en action, avoir une influence sur l'action, à partir de l'écriture d'une fiction.
Tout à fait.
Et alors, comment est-ce que vous qualifierez cet usage que vous faites de la fiction ? On n'est plus du tout dans le roman, on est dans la fiction. Est-ce que vous emploieriez un autre terme que celui de juste fiction pour le qualifier ?
Ce n'est pas vraiment un terme que j'emploie très souvent. Je l'emploie même en général pas du tout. Mais ce que j'avais essayé de dégager, en particulier pour le livre précédent, Crenshaw, c'était en essayant de qualifier de la manière ou de caractériser d'une manière précise ce livre et le genre avec ou sans guillemets auquel il appartenait. J'étais tombée sur un texte court, un récit très court de Gérard de Nerval qu'il avait écrit au milieu du 19e siècle. Et ce récit qui était un mélange en fait d'essais et d'autobiographie, il en avait parlé comme d'une fantaisie réaliste ou d'une fantaisie réaliste critique. Et en fait, j'avais trouvé que pour parler de Crenshaw, mais aussi rétrospectivement pour parler de Tomate et même de ce que j'essaye de faire depuis le début, fantaisie, réaliste, critique, ça marchait pas mal.
Très bien, donc ça remonterait, on pourra donc en faire une généalogie via le 19e.
Oui, je pense que, mais même avant, hein, puisque dans Descente de médium, Christine de Pizan, qui est un écrivain du Moyen-Âge, hein, du 15e siècle, a un rôle assez important. Et chez Christine de Pizan, il y a une alliance, un rapport, une relation, un mélange qu'elle fait entre l'essai, pour elle, l'essai philosophique, hein, l'essai et l'autobiographie, qui est, j'ai trouvé particulièrement pertinent et adéquat à ce type de projet qu'on peut avoir aujourd'hui pour essayer de donner une littérature un peu plus vivante que ce qu'elle est, quoi.
Terminer avec mon interrogation sur comment qualifier votre usage de la fiction, je lis un petit extrait, page 51, je vous lis. D'une part, la fiction n'est pas la réalité. D'autre part, on agit et fait agir dans la fiction comme dans la réalité. Des personnages sont aux ordres dans les fictions parce que trop d'hommes sont aux ordres dans le monde. C'est cette logique-là qui est à l'œuvre dans votre livre.
Oui, cette phrase, c'est l'idée qu'on ne peut pas tout faire impunément, ou pas impunément, le mot est fort, mais innocemment, et que la manière dont on écrit et ce qu'on invente dans les fictions et dans les romans n'est pas coupé de la réalité, n'est pas coupé du réel. C'est dans le réel, c'est dans la réalité. Et ça ne peut pas ne pas avoir, à la longue, hein, je ne sais pas moi, 150 romans sur tel fait divers ou sur tel point de choses qui se passent dans la société ne peuvent pas être sans effet, absolument sans effet social. C'est ce que dit cette phrase.
À un moment donné de votre livre, il y a comme ça des personnages qui existent, qui surgissent. Il y en a un qui m'a étonné, c'est Jean-Pierre Cometti, un de nos grands philosophes, spécialiste du programmatisme. Et vous en arrivez à impliquer, curieusement et étonnamment, Jean-Pierre Cometti, qui expliquait à une doctorante un peu baba comment il allait procéder pour détourner des subventions tout en dénigrant des collègues au nom d'hôtels de luxe dans le but unique de faire passer des tests à tête sérieuse afin de vérifier que les Polaroids étaient bien des photos de ses pensées.
Oui, alors c'est à la fois c'est comme le nom de Serios, hein, qui est le vrai nom de ce monsieur, mais il faut bien sûr l'entendre aussi sérieux. C'est-à-dire qu'il y a toujours je crois assez souvent en tout cas dans mes livres, quelque chose de l'ordre de la blague à prendre au sérieux. Quelque chose de la blague et quelque chose de très sérieux dans la blague qu'on fait. Et la présence ou l'irruption de Jean-Pierre Cometti dans le livre fait partie de cette blague, certes, mais très sérieuse. C'est-à-dire que Cometti est là comme un personnage un peu intéressé, un peu, bon voilà, comique en fait dans le livre, mais la référence à Cometti, c'est aussi cette idée que le type de littérature que j'essaye de faire est plutôt du côté d'une forme de pragmatisme, puisque elle ne coupe pas l'art de l'expérience qu'on en a, et elle essaye d'être pleinement un acte.
C'est-à-dire que vous n'utilisez pas le nom de Jean-Pierre Cometti gratuitement? Il y a un arrière-fond théorique, un arrière-fond philosophique, et c'est là où on retrouve votre préoccupation sur comment fabriquer de la fiction, comment fabriquer de l'écrit fictif.
Tout à fait.
Et cette manière d'avancer dans votre texte, souvent ça me fait penser à une logique d'enchaînement des idées, une logique un peu folle d'enchaînement des idées, qui fonctionne aussi beaucoup par des jeux de langage. Ça me fait penser des fois à Marabout, bout de ficelle. Je prends cet exemple avec Ted Serios. Vous disiez que vous avez eu quelques difficultés avec Serios, que c'était quelqu'un que vous trouviez finalement pas très sympathique, que vous vous dites qu'il n'a finalement pas dû avoir beaucoup d'amis, et que vous avez finalement peut-être pas tellement envie de devenir son ami, mais que, bon, c'est pas grave, parce que les biographes d'Adolf Hitler ne sont pas forcément devenus les amis d'Adolf Hitler.
Oui, oui. Votre question, je suis désolée, j'ai perdu votre question.
Eh bien, ma question, c'est, il y a une logique d'enchaînement des idées qui vous entraîne par des jeux de langage notamment, qui vous entraîne comme ça à constituer l'en avant de votre texte.
Oui, c'est-à-dire que ça, c'est lié à la manière dont ces livres sont fabriqués. Je pars avec, sur ce livre-là en particulier, en fait, qui a connu plusieurs versions, il y en a eu au moins 5, dont un scénario avorté, un vrai roman mais échoué. Donc je pars du désastre de versions antécédentes et je recolle, ou je fais du collage avec ces versions-là. Mais la version finale, là, qu'on peut lire, elle est quand même, elle a une direction qui est celle que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle de la quête plus ou moins désespérée du retour d'un sens politique dans la littérature et dans la vie en général. Et c'est le sens de l'épisode où Victor Hugo apparaît, évidemment puisqu'on est dans un roman entre guillemets spirit, et Hugo apparaît à un moment dans une séance. Essayant de faire deviner un mot à un médium. Ce mot n'est pas révélé dans mon livre, dans Descente de médium, mais ce mot, alors que je ne vais pas dire parce que c'est comme un rébus ou une énigme, ce mot a directement trait à quelque chose de politique. Pour répondre à votre question sur le système des associations du signifiant, des associations de mots, des associations d'idées, c'est un peu toujours comme ça que j'ai procédé, ou en tout cas très souvent. Et ça tient aussi à la composition décomposée, si on peut dire, de ce livre.
Décomposée, recomposée. Eh bien, merci beaucoup, Nathalie Quintane, d'avoir accepté cette interview et d'avoir été en direct avec nous. Merci.